Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 6 septembre. Les rassemblements de 6 personnes autorisés à Séoul et dans ses environs. Présidentielle 2022, Lee Jae-myung remporte une nouvelle victoire absolue dans la primaire nationale. Selon le général Van Herk, les États-Unis sont prêts à toute provocation balistique nord-coréenne. Enfin, concours de piano Busoni, les deux premiers prix reviennent à des Sud-Coréens. Un nouvel assouplissement des mesures sanitaires liées au Covid-19 est entré en vigueur aujourd'hui pour 4 semaines dans les régions où le niveau maximal de distanciation sociale, à savoir le niveau 4, est imposé, y compris à Séoul et dans sa couronne. Les restaurants et les cafés peuvent désormais ouvrir leurs portes jusqu'à 22h, soit une heure plus tard qu'auparavant. Les rassemblements privés restent limités à 4 ou à 2 personnes avant ou après 18h respectivement, mais le chiffre peut être porté à 6 en présence de personnes totalement vaccinées. Le gouvernement projette de modifier les critères de distanciation sociale le mois prochain, dès que la propagation de l'épidémie se sera stabilisée sous l'effet de la vaccination, et d'offrir aussi des avantages aux individus inoculés. Pourtant, cette initiative semble loin de rassurer les petits commerçants. Le comité d'urgence des commerces indépendants a fait état d'une manifestation en voiture de 3000 individus ce mercredi sur tout le territoire. Selon son porte-parole, ceux qui se sont fait administrer et 2 doses de sérum sont principalement les personnes âgées, et le dispositif sanitaire du gouvernement étouffe encore les petites enseignes. Côté bilan, le nombre journalier de cas confirmés diminue légèrement depuis 3 semaines, mais la baisse n'est pas assez marquée. La Corée du Sud a recensé ces dernières 24 heures 1375 nouvelles infections au Covid-19. Le chiffre dépasse la barre des 1000 depuis le 7 juillet dernier. Et dans le même chapitre, alors que le nombre journalier de nouvelles infections au Covid-19 franchit le seuil des 1000 depuis 2 mois, les autorités sanitaires préparent le retour à la vie normale étape par étape. Un haut fonctionnaire du ministère de la Santé a indiqué aujourd'hui, dans une rencontre avec les journalistes, que cette décision avait comme condition préalable la stabilisation de la propagation du virus dans le courant de ce mois. Selon Son Yong-le, le gouvernement évite d'employer le terme « vivre avec le Covid » car celui-ci risque de laisser entendre un assouplissement des règles de distanciation sociale. Il a précisé que le taux d'occupation des lits pour les patients en état grave s'élevait actuellement à 60 à 70% et qu'une baisse de vigilance pourrait directement porter atteinte au système de réponse médicale. Toujours d'après cet officiel, la révision des restrictions sanitaires en juin dernier a entraîné un relâchement, alimentant à son tour la 4e vague de l'épidémie. Il est donc essentiel, selon lui, de continuer à rester sur ses gardes. Le processus de versement de la nouvelle aide d'urgence commence aujourd'hui jusqu'au 29 octobre. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, 88% des Sud-Coréens peuvent toucher chacun 250 000 won, soit environ 180 euros. Pour se renseigner sur les informations concernées, les citoyens peuvent consulter les sites internet de leur carte de crédit, du Service national de l'assurance maladie ou encore se rendre dans les mairies. Pendant la première semaine, un système de rotation sur 5 jours basé sur l'année de naissance est appliquée afin d'éviter la saturation des serveurs. Par exemple, le lundi est réservé aux personnes dont le dernier chiffre de l'année de naissance est 1 ou 6, le mardi 2 ou 7 et ainsi de suite. À compter de ce week-end, l'inscription sera disponible pour tous. Le ministère de l'Économie et des Finances a tenté de résoudre les inconvénients survenus lors de la demande et l'utilisation de l'aide financière versée l'an dernier. Le nouveau fonds de secours d'urgence, le 5e du genre, peut être accordé selon plusieurs mode de paiement dont la carte bancaire, la carte prépayée ou encore des bons d'achat locaux. Ceux qui souhaitent le recevoir sur leur carte bleue peuvent déposer leur demande sur l'application ou le site de leur établissement financier. L'inscription en ligne dans les banques sera possible à partir de lundi prochain. La prestation est versée le lendemain de la demande et peut être utilisée uniquement dans la région de sa résidence, et ce jusqu'à la fin de l'année. Le gouverneur de la province de Gyeonggi, Lee Jae-myung, continue à prendre les devants comme le principal candidat du Minju, le parti au pouvoir pour la présidentielle de 2022. En effet, il s'est hissé hier en tête du vote primaire national en cours dans la province de Chungcheong du Nord et dans la ville de Sejong. En récoltant 54,5% des voix, il a de nouveau obtenu la majorité après sa précédente victoire dans le Chungcheong du Sud et à Daejeon. La deuxième place est revenue à l'ancien premier ministre Lee Nak-yeon avec 29,7% des voix. L'écart n'était pas important chez les représentants, mais son rival a bénéficié d'un soutien conséquent des membres citoyens de la formation. Lee Jae-myung s'est engagé à faire de son mieux pour être à la hauteur de l'attente des adhérents et de la population plutôt que de s'attacher à sa cote de popularité. Lee Nak-yeon, de son côté, s'est présenté comme un candidat de la stabilité, mais sans parvenir à renverser la tendance. L'ancien patron de la formation a d'ailleurs souligné l'importance du contrôle des candidats sans lequel le parti pourrait se voir confronté à un risque fatal lors du suffrage présidentiel, évoquant en creux les soupçons qui entourent son rival. L'ancienne ministre de la Justice Chu Mi-hae s'est quant à elle classée troisième avec 7,1%, suivie de l'ex-chef du gouvernement Jang Se-yoon avec 5,5%. Viennent ensuite les deux élus Park Jong-jin et Kim Doo-kwan. Ce week-end, le vote pour la primaire du Minju se déroulera dans la province de Gyeongsang du Nord, à Daegu et dans le Gangwon. On connaîtra également le choix du corps électoral civil composé de 640 000 individus.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Sur fond de révélation d'indices indiquant la préparation d'une parade militaire en Corée du Nord, un Global Hawk de l'armée de l'air américaine a survolé hier la péninsule coréenne. À en croire Flight Radar 24, un site de suivi de vol, l'appareil sans pilote a traversé plusieurs fois d'est en ouest le siège de la capitale sud-coréenne et de la province de Gangwon, toutes deux proches de la ligne de démarcation militaire. Équipé de radars de haute performance et de détecteurs infrarouges, le Global Hawk est capable d'identifier à 20 km d'altitude des objets d'une taille de 30 cm. Son autonomie est de 38 à 42 heures avec un rayon opérationnel d'environ 3000 km. Jeudi dernier, 38 North, un site web américain spécialisé dans les activités nord-coréennes, avait révélé sur son compte Twitter que des préparatifs de formation de troupes avaient été observés à l'aérodrome de Milim à Pyongyang. Ce terrain d'aviation a été souvent utilisé dans le passé pour la répétition des parades militaires. Selon les observateurs, une parade militaire pourrait avoir lieu le 9 septembre ou le 10 octobre prochain, respectivement à l'occasion du 73e anniversaire de la fondation du régime et du 76e anniversaire de la création du Parti des Travailleurs. Elle pourrait toutefois avoir son envergure réduite en raison du Covid-19. Et toujours dans le même chapitre, l'armée américaine reste toujours prête 24 heures sur 24 à tout lancement de missiles nord-coréens. C'est ce qu'a souligné Glenn Van Herk, commandant du commandement du Nord des États-Unis et du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD, lors d'un point de presse tenu vendredi. Le général de l'Air Force a ainsi expliqué que le commandement nord-américain et le NORAD étaient prêts à mener des opérations nécessaires si la Corée du Nord décidait d'organiser une telle provocation. Plus précisément, les deux commandements sont prêts à fournir des capacités de mission à tout moment. Pour le premier, il s'agit d'une alerte de menace et d'évaluation d'attaque, et pour le NORAD, il s'agit de capacités de défense antimissile balistique. Actuellement, le général Van Herk cumule les fonctions de ces deux unités, dont la principale mission est de neutraliser les missiles balistiques intercontinentaux nord-coréens. Au début du siècle, les conglomérats sud-coréens procédaient encore à des campagnes de recrutement massif de plusieurs milliers de nouvelles recrues. Or, cette coutume tente à disparaître. Le groupe SK organise ainsi sa dernière embauche régulière de masse cette année. Après que Hyundai Motor a adopté cette démarche il y a 2 ans, LG lui a emboîté le pas l'an dernier et c'est donc désormais au tour de SK de rejoindre le mouvement. L'an prochain, parmi les 4 plus grands chaebol sud-coréens, seul Samsung maintiendra ce système. Selon l'enquête d'une plateforme de recherche d'emploi, la proportion des entreprises qui recrutent des travailleurs de cette façon a chuté à 36% au deuxième semestre, contre 50% il y a 2 ans. Ce changement est principalement attribuable au fait que les sociétés souhaitent mettre leurs salariés directement au travail. En effet, lors d'un recrutement massif, elles doivent investir du temps et de l'argent dans la formation des novices. Sur fond de crise sanitaire du Covid-19 qui a accéléré la transition numérique, les firmes sont nombreuses à vouloir embaucher les personnels dont elles ont besoin sur le moment, notamment dans le secteur des TIC. Cependant, pour les demandeurs d'emploi, il n'est pas facile d'acquérir les connaissances pratiques exigées. Ce phénomène fait d'ailleurs craindre une baisse générale du recrutement. En effet, depuis l'abolition de l'embauche régulière, le nombre de postes en CDI chez Hyundai Motor et LG Electronics a dégringolé respectivement d'environ 400 et 1600. Étant donné que l'embauche aux besoins présente davantage de risques de corruption, assurer l'équité dans le processus représente un nouveau défi à relever. Le concerto pour piano numéro 3 en ré mineur de Rachmaninov est une œuvre qui exige de ses interprètes à la fois une grande virtuosité et une endurance physique. C'est pourtant ce morceau que le pianiste sud-coréen Park Jae-hong a choisi pour la finale du concours international de piano Ferruccio Busoni 2021, achevant même avec succès la cadence exigeante du premier mouvement. Ce qui lui a finalement valu le premier prix. Il s'agissait de la deuxième tentative pour ce jeune pianiste en quatrième année à l'Université nationale des arts de Corée. Après un premier essai en 2019, il a du mal à réaliser la victoire, d'autant plus extraordinaire que les performances des autres candidats étaient plus qu'excellentes. Son compatriote Kim Do-hyun a obtenu le deuxième prix pour son interprétation claire et puissante du concerto pour piano numéro 2 en sol mineur de Prokofiev, créé en 1949 en hommage au grand compositeur pianiste italien Busoni. Cette composition biennale n'a donné que 6 premier prix depuis 2001. Baek Kon-woo est devenu en 1969 le premier artiste sud-coréen à s'être vu remettre une médaille d'or, l'unique attribution de l'histoire du concours. En 2015, Moon Ji-young a remporté le premier prix pour devenir la première pianiste asiatique ainsi récompensée. Cette année, parmi les 33 présélectionnés se trouvaient 9 sud-coréens et 2 des 3 finalistes venaient du pays du matin clair. Qui plus est, 7 sud-coréens ont déjà été sélectionnés au concours international de piano Frédéric Chopin. Prévu le mois prochain, la Corée du Sud attire ainsi l'attention du monde entier, non seulement pour sa K-pop, mais également pour ses talents dans la musique classique. C'est la fin de ce journal présenté aujourd'hui par Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée à tous.